Bonjour et bienvenue dans Bon Baiser du Chien, le podcast d'Audrey Ventura de Sinoconsult. Avant de débuter ce nouvel épisode, sachez que vous pouvez vous procurer les livres et les jeux de société d'Audrey Ventura sur internet, ainsi que dans tous les lieux de dépôt qui figurent sur le site de Sinoconsult et dans la boutique en ligne de ce même site web. Disponibles un peu partout en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et même au Québec, les livres et les jeux d'Audrey connaissent un grand succès auprès de leurs lecteurs et lectrices. Ce podcast n'a d'autre objectif que d'élargir le cercle des lecteurs et auditeurs afin de permettre à un maximum de personnes d'avoir accès aux articles écrits par Audrey. Même si c'est moi, Romain, qui en fait la lecture, les éventuels « je pense que » ou « j'écris ceci car » font bien sûr référence à Audrey Ventura, unique autrice de ces textes. Je ne vous fais pas plus attendre et je vous laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Chaque chien a son histoire, plaidoyer contre l'uniformisation de l'éducation canine. Un même mouvement inquiétant traverse notre société à des sphères pourtant très différentes. On parle de la standardisation des pratiques. Santé, dans les hôpitaux, de la gériatrie à la psychiatrie, éducation de l'enfant via des méthodes de psychologie comportementale, management d'entreprise, etc. Et malheureusement pour le chien, l'éducation canine n'en réchappe pas. Les protocoles d'éducation en ligne se multiplient, ils promettent efficacité, accessibilité, universalité, ils rassurent par leur structure et donnent rapidement une impression de contrôle. Ils offrent des étapes, des schémas, des recettes, souvent à moindre coût. Mais le vivant peut-il entrer dans un protocole ? La tentation de l'universel. L'essor de l'éducation canine en ligne repose sur une seule et même idée implicite. Les comportements canins relèvent de mécanismes généraux applicables à tous les chiens, quelle que soit leur histoire, leur génétique, leur environnement, leur lien d'attachement. Or, l'éthologie moderne et les sciences du comportement soulignent exactement l'inverse. Les travaux de Konrad Lorenz et de Nico Tinbergen ont montré que le comportement animal ne peut être compris qu'en tenant compte de quatre niveaux d'analyse. Les mécanismes immédiats, le développement ontologique, le développement d'un individu au cours de sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort, la fonction adaptative et l'évolution phylogénétique, l'histoire évolutive d'une espèce sur des milliers ou millions d'années. Autrement dit, le comportement n'est jamais un simple symptôme à corriger, mais l'expression d'une histoire. Plus récemment, les recherches sur la cognition sociale du chien, par exemple celle de Brian Hare, rappellent que le chien domestique est un partenaire relationnel hautement sensible au contexte social humain. La relation n'est pas un décor, elle est un facteur structurant. Pourtant, la plupart des programmes en ligne s'appuient presque toujours sur le conditionnement opérant et ne s'intéressent jamais à la relation. Forcément, puisque dans cette démarche éloignée de tout contact humain, tout est fait pour ne jamais vous rencontrer. A-t-on bien compris Skinner et le conditionnement opérant ? Burrus Frédéric Skinner n'a jamais présenté le conditionnement opérant comme une pédagogie globale. Il parlait d'un modèle expérimental de modification comportementale. Un outil, une mécanique, en somme. Les psychologues comportementalistes eux-mêmes, héritiers de Skinner, comme Kasdin pour l'enfant, reconnaissent que le conditionnement opérant automatise, façonne, renforce des réponses. Ils ne développent ni réflexion, ni discernement, ni compréhension contextuelle. Leur objectif n'est pas d'inculquer une morale ou de créer du lien, pas du tout. Dès lors, appliqué sans finesse ni compréhension, le conditionnement opérant produit juste des comportements. Il ne construit pas du tout une relation saine. Et pourtant, avec le chien, comme avec l'enfant, c'est la clé du bien-être et d'une éducation respectueuse et développante. Les neurosciences affectives contemporaines, notamment les travaux de Jacques Panksepp, montrent que les systèmes émotionnels primaires, peur, colère, modulent profondément les comportements observables. Ignorer l'état émotionnel pour ne traiter que la réponse comportementale revient à n'intervenir qu'en surface. Le risque n'est pas l'outil en lui-même, c'est son absolutisation qui inquiète. Quand le protocole en ligne fait écran à la compréhension du chien. Les exemples de terrain sont malheureusement nombreux. Un Akita américain dont on travaille la prédation alors qu'il exprime des agressions de distancement proactive déclenchées par l'insécurité représentée par les animaux de grande taille. Un Malinois agressif qui suit un protocole sur la gestion de la peur alors qu'il exprime un comportement offensif sélectionné génétiquement dans sa lignée et nécessitant une sphère de canalisation et un renforcement de la relation au gardien. Un berger australien englué dans un protocole d'anxiété de séparation qui n'avance pas car son problème est médical. etc., etc. Dans ces situations, les comportements des chiens sont évidemment aggravés. Dans ces situations, le problème est structurel. Un protocole standardisé ne remplacera jamais une étude individualisée et systémique. Comprenez par systémique le fait de comprendre un phénomène non pas de manière isolée, mais comme faisant partie d'un système engagé d'interactions dynamiques qui s'influencent mutuellement. Les travaux en génétique comportementale, par exemple ceux de John Paul Scott ou de John Fuller, ont montré dans les années 1960 combien les différences inter-individuelles et interraciales modulent les réponses comportementales. Plus récemment, la recherche en épigénétique confirme que l'expérience précoce laisse des traces durables. Dans le cas de l'Akita, dont on parlait tout à l'heure, l'investigation poussée a permis d'apprendre que vers 6 mois d'âge, le chien avait été agressé par un sanglier, comment une formation en ligne sur la prédation aurait pu le comprendre. Une question éthique plus que technique. Ici, le débat n'est pas positif contre traditionnel, ce serait vraiment réduire le propos que de le croire. La question est, quelle place laissons-nous à la subjectivité du chien ? Dans un monde où l'appât du gain a la primauté, la tentation est grande pour certains professionnels de tomber dans la vente en masse de protocoles standardisés. Pour les clients, efficacité, rapidité et moindre coût deviennent de plus en plus des valeurs cardinales qui font croire qu'il est normal de vouloir corriger un comportement plutôt que de le comprendre. Comprendre un chien suppose du temps, de l'observation, de l'humilité, l'acceptation de la complexité et un intérêt inconditionnel pour le vivant. L'éthologie clinique et la psychologie comparée nous invitent d'ailleurs à considérer l'animal comme un sujet doté d'un monde propre, ce que le biologiste Jacob van Wexkull appelait son « Umwelt ». Standardiser, c'est oublier cette Umwelt. Une inquiétude plus qu'un procès. Il ne s'agit pas pour autant de diaboliser toutes les ressources en ligne proposées par la profession. Webinaires, articles de fond, prises de parole en direct veulent souvent informer, sensibiliser, ouvrir des pistes de réflexion. Ces formats permettent d'apprendre tout en prenant de la hauteur. Leur but est de développer la connaissance générale sur le chien et d'ouvrir des portes de réflexion. Pas d'apporter des solutions clés en main pour des individus que nous ne connaissons pas. C'est d'ailleurs une garantie de sérieux et d'éthique. Mais lorsque la démarche d'éducation standardisée en ligne devient la seule proposition, se substitue à l'analyse individualisée lorsqu'elle supprime l'intervention de terrain, lorsqu'elle est érigée en solution universelle de manière décomplexée, une vraie question déontologique émerge. Sommes-nous en train de confondre accessibilité et simplification excessive ? Sommes-nous en train d'appliquer au vivant les logiques industrielles de production de solutions ? La pédagogie relationnelle doit s'imposer pour le vivant, qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes ou de chiens domestiques. L'étude fine du profil personnel devrait toujours rester centrale. Peut-on vraiment éduquer ou aider sans comprendre l'individu ? Peut-on accompagner sans jamais rencontrer ? Ceci est une invitation à la vigilance parce que derrière chaque protocole qui semble simple et efficace, un être vivant singulier a peut-être été oublié. Nous laissons la responsabilité de leur choix éducatif aux gardiens. Les questions qui s'imposent restent les suivantes. Souhaitez-vous réellement cette éducation-là pour demain ? Et pensez-vous réellement que le vivant au sens large peut s'accommoder de protocoles standardisés en ligne, de conseils schématisés et d'exercices conditionnants ? Voilà, cet épisode est terminé et si vous êtes encore là, c'est que la lecture vous a plu. Nous vous remercions pour votre écoute et vous invitons à partager ce podcast au plus grand nombre. Excellente journée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle lecture d'Audrey Ventura de Cynoconsulte.